même faire ici à la vie comblée, on va faire une déclaration de la foi parce que nous croyons de tout notre cœur que ce livre est inspiré de Dieu. Combien de vous, vous croyez que ce Bible est inspiré de Dieu? Donc, on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu et je serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours et à jamais transformé et changé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Donc, ce matin, on veut regarder plusieurs choses dans la parole de Dieu. Mais le message aujourd'hui, c'est simple. On a un diapo, je pense, préparé au bout du rouleau. Est-ce que c'est là ou non? Je ne sais pas. Hein? Donc, vous savez que des fois, ça arrive les journées où peut-être on n'a pas tout à fait l'air de ça à l'extérieur, mais des fois à l'intérieur, c'est comme ça qu'on se sent. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Peut-être le lundi matin ou plutôt le vendredi après-midi après une longue semaine. Il y a des semaines qui sont plus difficiles que les autres. Il y a des jours qui sont plus difficiles que les autres, n'est-ce pas? Il y a des matins où quelqu'un vole tes notes et les choses comme ça. Et les choses de la vie, des fois, qui peuvent être un peu stressantes. Mais j'ai une bonne nouvelle. La Bible nous donne vraiment des instructions assez pratiques pour comment être fort même dans les temps difficiles. Est-ce que ça vous intéresse? Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Il y a un passage de la parole de Dieu qui est super important qu'on va voir. Mais juste avant de voir ce passage, de vraiment lire cela, je veux vous lire quelques autres passages de l'apôtre Paul. Dans le même livre, son épître aux Corinthiens, il a dit plusieurs choses. Il a dit, par exemple, que nous portons ce trésor, en chapitre 4. C'est pas dans vos notes, c'est pas sur le diapo. Donc, juste écoutez pour une minute. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7 dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Déjà, c'est une bonne chose de savoir que nous avons un trésor à l'intérieur de nous, mais c'est dans une vase de terre. C'est-à-dire que nous sommes pas encore parfaits. On fait encore des erreurs. Il y a des fois que, des moments qui sont peut-être difficiles dans la chair. Mais regarde bien, nous portons quand même ce trésor dans les vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Et là, il faut que j'arrête le message juste pour 2 secondes pour annoncer une bonne nouvelle. Le nouveau bébé est arrivé, hein? Le bébé de Billy et Karine, est-ce que tu veux te lever, grand-papa, avec c'est Dédric, n'est-ce pas? Donc, il a quel âge maintenant? Une semaine, donc, il est vieux, hein? 7 jours. Donc, il fallait, je m'excuse, hein, mais ça, c'est des choses importantes, hein? Il faut pas oublier ça. Mais revenir au message, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Pourquoi? Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Dieu ne partage pas sa gloire avec les autres. Il veut que le monde sache qu'il est Dieu, qu'il est tout-puissant, que c'est lui qui est bon. Donc, il se manifeste en nous. Il fait des grandes choses en nous. Il fait de nous la nouvelle création. Mais tout cela, c'est pas grâce à nos mérites. C'est pas grâce à nos œuvres. C'est grâce à son amour, n'est-ce pas? Et on voit cela. Puis, il continue, il dit, nous sommes pressés de toute manière, comme monsieur ici, hein? Pressés de toute manière. Mais non réduit à l'extrémité. Dans la détresse, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été pressés un peu, peut-être cette semaine même? Hein, des gens qui ont eu un peu de détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans nos corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Afin que la vie de Jésus soit manifesté dans notre chair mortelle. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ce verset nous montre? C'est que malgré les problèmes de la vie, malgré les stress, malgré les journées où on se sent vraiment au bout du rouleau, où on pense qu'on ne peut plus continuer, il y a toujours un moyen de continuer. Même si on a de la pression, même si on a de la persécution, même si on a de la détresse, on est capable de se tenir debout et de rester fort dans le Seigneur et de continuer à vaincre au lieu d'être vaincu. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des plus que vainqueurs ici? Des plus que vainqueurs. Vous savez, Jésus a vaincu et c'est pourquoi nous sommes les plus que vainqueurs. Donc, Paul, il a dit cela et puis il continue même en chapitre 11, juste quelques chapitres après. Il commence à décrire un peu certaines problèmes, les détresses, les moments difficiles qu'ils ont passés en tant qu'apôtres. Et juste donner quelques exemples. En 2 Corinthiens chapitre 11, on peut lire quelques versets. Il dit ici en verset 23, « Sont-ils ministres de Christ? Je parle à un homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus. » Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs. 40 coups moins 1. Combien de fois? 5 fois il était battu de verge. 40 coups moins 1. Et donc, mais il continue, c'est pas la fin de l'histoire. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. Et on sait qu'il était laissé pour mort. Ils l'ont traîné en dehors de la ville. Tout le monde pensait qu'il était mort. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif et à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose. Je suis un bébé des fois, hein? C'est vrai, hein? Des fois, je pense que, oh, c'est dur, c'est difficile. Je lis ça, je dis, je peux pas vraiment me plaindre. Est-ce que vous êtes d'accord? Regarde ça. Mais quand même, il a gardé sa foi, il a gardé sa joie. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient tomber, que je ne brûle. Donc, il continue. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que quelqu'un qui a vécu toutes ces choses aurait raison de se plaindre? Il aurait raison de peut-être avoir l'air de Monsieur Chaton ici. Stressé, au bout du rouleau. Et c'est ça qu'il a dit. Pas désespéré, mais quand même dans la détresse. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour être capable de faire face aux moments de la vie qui sont plus difficiles, qui sont plus durs. Écoute, je ne veux pas dire que la vie est toujours rose, parce qu'il y a des moments qui sont difficiles, mais on est toujours plus que vainqueur et on peut toujours triompher en Jésus-Christ. Donc, si on peut continuer, il y a un autre verset qui est dans vos notes, je crois, en chapitre 12, verset 9. En fait, on va reculer, par exemple, verset 7. C'est pas dans vos notes, mais je vais le lire et puis on va arriver à verset 9. 1 Corinthiens 12, 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mise une écharpe dans la chair. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de cette écharpe dans la chair de l'apôtre Paul. Il y en a qui vont dire que, oh, ça c'était une maladie. Ils vont dire que Paul avait une maladie aux yeux et que ses yeux coulaient à cause de cette maladie. Et il y a beaucoup de personnes qui vont parler de cela. Mais regardons, n'oubliez pas que chapitre 12 suit chapitre 11, n'est-ce pas? chapitre 11 qu'on vient de lire, il a décrit toutes les détresses et tous les périls qu'il a vécu, n'est-ce pas? Dans toute cette liste des problèmes que Paul a énumérés, est-ce qu'il y a une seule place où il a mentionné qu'il était malade? Est-ce qu'il y avait plein de places où il avait de la misère, de la peine et de la difficulté? Oui, et pas à peu près. OK? Battu de verge, lapidé, laissé pour mort, toutes ces choses qu'il a vécues. Et il a dit ici qu'il lui a été donné une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Mais regarde bien, on sait c'est quoi l'écharpe dans la chair. L'écharpe dans la chair, il dit ici, c'est un messager de Satan qui a été donné pour le souffleter. C'est-à-dire à chaque place qu'il allait, il arrivait dans une ville et il y avait toujours la résistance. Toujours des problèmes, toujours des choses qui allaient pas bien pour lui, parce qu'il était là pour prêcher l'Évangile, il était là pour libérer les captifs, et les puissances des ténèbres n'étaient pas contents. OK? Donc, les chairs dans la chair, on ne peut pas dire que c'est une maladie, c'est un messager de Satan, et on voit qu'est-ce que le messager de Satan a fait. Il a incité, il a inspiré toutes les personnes qui l'ont lapidé, qui l'ont battu de verge, qui ont fait tous ces problèmes, qui ont provoqué les problèmes qu'il a vécu. Ça, c'est le messager de Satan. Les chars dans la chair. Mais on continue à verset 8. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit. Tu m'as dit, sa grâce me suffit. OK. Donc il y a des personnes encore qui disent, oh voilà, c'est une maladie des yeux qu'il a. Il a demandé trois fois d'être guéri. Le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Donc, ça montre que ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous d'être guéris. Est-ce que c'est ça que ce passage est en train de dire? Non. Les gens vont dire, oh oui, mais en Galates, il dit, Paul dit que c'était à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai prêché l'Évangile la première fois. Et je suis témoin, Dieu est mon témoin, que tu aurais arraché vos yeux pour moi. Oh, preuve que c'est une maladie des yeux. Non, mais avez-vous pensé qu'il est arrivé chez les jeunes en Galates pas longtemps après être lapidé? Le gars était lapidé et laissé pour mort. Pensez-vous qu'il avait des bleus? Pensez-vous que peut-être il avait les yeux enflés? Moi, je ne sais pas, mais moi, c'est évident qu'il a été guéri dans le sens que, bon, il est ressuscité, il est encore en vie, il est encore capable de marcher, mais probablement, il avait quand même un temps de guérison à faire après avoir été maltraité à ce point-là. Pensez à ça. Vous savez, c'est quoi d'être lapidé? Les gens prennent les roches, et pas des petits cailloux non plus des fois, hein? Des grandes roches, et ils essaient d'écraser votre crâne. Donc, c'est là, il arrive. Merci Seigneur, quelle puissance et quel pouvoir de guérison qu'au lieu de mourir là, il se lève debout et il continue à prêcher. Est-ce qu'il avait besoin quand même d'un temps de rétablissement? Sûrement. Sûrement. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que le problème, il demande trois fois, Seigneur, que cette écharpe de la chair me soit enlevée, c'est-à-dire que cette messager de Satan soit enlevée. Et Jésus répond, ma grâce te suffit. Et moi, je vois plusieurs choses là-dedans. Parce que la grâce de Dieu, c'est quoi? Il y a des gens qui disent que la grâce, c'est la faveur non méritée de Dieu. Et ça, c'est vrai. On n'a pas mérité sa faveur, mais quand Dieu nous fait grâce, on reçoit sa faveur malgré nos œuvres, malgré nos problèmes, malgré nos défauts, malgré nos péchés. Dieu nous donne sa grâce. Et la grâce est beaucoup plus que la faveur non méritée de Dieu. C'est aussi toute la puissance de Dieu qui est manifestée. J'aime beaucoup une définition qu'un prédicateur a donnée à la grâce. La grâce de Dieu, c'est la puissance surabondante de Dieu qui vous rend capable de faire tout ce que vous avez besoin de faire dans la vie. La puissance surabondante de Dieu. Autrement dit, la puissance surabondante de Dieu. C'est ça qui vous rend capable de faire tout ce que vous avez besoin de faire dans la vie. Ma grâce te suffit. Bon, qu'est-ce que Paul est supposé de faire? Il y a des choses qu'on peut changer dans la prière, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas changer dans la prière. Amen? Et encore, il y a une autre chose que je crois aussi. Quand on parle de Satan et les messagers de Satan, ça ne donne rien de prier, « Seigneur, enlève la tentation » ou « Seigneur, éloigne de moi le diable ». La Bible ne dit pas de prier que le diable soit enlevé. La Bible dit, en Jacques, « Résistez le diable et il prendra la fuite ». C'est à nous de résister à Satan. C'est à nous de prendre la grâce de Dieu qu'il a mise dans notre esprit et de la faire activer. C'est à nous de faire cela. Et il y a des choses qu'on peut résister, il y a des choses qu'on peut chasser, il y a d'autres choses dans la vie qu'il va falloir qu'on passe par-dessus et à travers aussi, et Dieu donne sa grâce pour qu'on puisse traverser les problèmes et les temps difficiles. Amen? Jésus a promis la persécution. C'est une promesse qu'on n'aime pas citer ou réclamer, mais la persécution, c'est une chose qui est promise dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? On va passer par des temps de persécution, et la grâce de Dieu est là. Comme quelqu'un a dit, c'est comme une brise glace qui va devant nous, qui trace le chemin devant nous. La grâce de Dieu. Ma grâce te suffit. Et puis, continue, et c'est là où les notes embarquent. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Mais tu peux reculer un pas, encore. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, quand Jésus a dit, ma grâce te suffit, il n'a pas dit qu'on va laisser ça de même, dans le sens que, bon, on va accepter la défaite, on va accepter l'échec, on va accepter la misère, mais il a dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc, qu'est-ce qu'on veut viser? On doit viser que la puissance de Dieu repose sur nous. On ne doit pas viser une vie où on reste dans la misère, où on reste dans le trouble, où on reste dans ces choses. Paul a dit, je vous exhorte à parcourir le Nouveau Testament et lire tous les versets que Paul a mentionné la persécution, qu'il a mentionné le trouble, le Seigneur a dit, et le Seigneur nous a délivrés de tout. Est-ce qu'il était lapidé? Oui, mais la grâce de Dieu était avec lui, et il était soit ressuscité entre les morts, ou sauvé de la mort, il a continué son ministère. Amen? Donc, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. C'est pas mentionné ici. La maladie n'est pas là-dedans, vous avez remarqué? Et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, on remarque plusieurs choses. Et dans ce verset, trois choses qu'on remarque. Premièrement, la grâce de Dieu est suffisante, n'est-ce pas? Peu importe qu'est-ce que vous vivez, peu importe la difficulté, peu importe si vous pensez que vous êtes au bout du rouleau, la grâce de Dieu est suffisante. Vous êtes capable de triompher, vous êtes capable de vaincre, vous êtes capable d'être fort malgré les temps difficiles. Demandez, la grâce de Dieu est suffisante. Alléluia. Deuxième chose qu'on voit dans ce passage, c'est que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. OK? La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Pourquoi encore? Dieu veut être glorifié. Dieu ne veut pas que les hommes disent, waouh, lui, il est vraiment quelque chose. Waouh, quel super-héros. Dieu veut que les gens nous voient en disant, waouh, Jésus est vraiment fort en lui. Amen? Mais puis, la troisième chose, et c'est déjà là, c'était là. Quand je suis faible, je suis fort. Combien de vous, vous avez mal cité ce verset dans le passé? Moi, je l'ai mal cité pendant des années. J'ai toujours dit que quand je suis faible, il est fort. Combien de vous, vous avez pensé ça? Moi, je suis le seul. Moi, j'ai entendu des chrétiennes. Je ne peux pas compter combien de fois j'entends des chrétiens citer ce verset et ils vont mal citer le verset. Quand je suis faible, c'est là qu'il est fort. Mais laisse-moi vous dire, le Seigneur est toujours fort. Ce n'est pas juste quand tu es faible ou quand tu es fort que le Seigneur est fort. Le Seigneur est fort tout le temps. Mais c'est quand je reconnais ma faiblesse dans ma propre force et quand je reconnais mes limites, quand j'avoue que sans Jésus, je ne peux rien faire, sans être branché à lui, je ne peux pas porter du fruit. Quand je suis séparé d'avec lui et je ne laisse pas la puissance de Dieu couler à moi, je suis faible. Et il faut que j'avoue cela et j'admette cela. Et quand je suis capable d'arriver à la place où je suis conscient de ma faiblesse humaine, c'est là où je deviens fort. Ce n'est pas le Seigneur qui est fort, mais je deviens fort parce qu'il me fortifie. Sa grâce est déclenchée, sa grâce est relâchée dans ma personne et tout d'un coup, je deviens fort. Je dis, Seigneur, je suis au bout du rouleau. Je ne peux rien faire sans toi, mais avec toi, je puis tout parce que tu me fortifies et je suis fort. Amen. Alléluia. La Bible dit que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Combien de vous, vous êtes fort aujourd'hui? Dans le Seigneur. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On voit que c'est la grâce de Dieu qui nous rend fort. C'est sa puissance surabondante qui nous aide à vaincre dans tous les domaines de la vie, qui nous rend capables de faire sa volonté. Il y a un verset, en Hébreux chapitre 4, verset 16, que j'avais à cœur de partager aujourd'hui, qui va nous donner les instructions très pratiques. Comment on peut être fort dans les temps difficiles? Et je pense que c'est vraiment dans ce passage, on va voir quelques clés. En fait, quatre choses qu'on peut faire pour activer la grâce de Dieu dans notre vie. Est-ce que ça vous intéresse d'activer la grâce de Dieu dans votre vie? Vous êtes tanné d'avoir l'air de ce chat qui est tout stressé? Vous êtes tanné d'avoir le sentiment de ne plus être capable de continuer, mais vous voulez être fort? Alors, quatre choses qu'on va voir dans ce verset. Hébreux chapitre 4, verset 16. La parole de Dieu dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » On parle de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est suffisante, n'est-ce pas? Sa grâce s'accomplit dans la faiblesse. Et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. » pour être secouru dans nos besoins. Quatre choses que nous voyons là-dedans qui sont primordiales. Si on veut continuer au lieu de lâcher, si au milieu des détresses, on veut quand même avoir la victoire. Quand nous sommes pressés, si on ne veut pas être vaincu, il faut mettre ces choses en pratique. C'est quoi les choses? Premièrement, approchez-vous de son trône. Mais comment est-ce qu'on s'approche? Avec assurance. Et c'est quel trône? C'est pas le trône du jugement, c'est le trône de grâce. Amen? Et si vous avez dans votre cœur et dans votre tête cette image de Dieu qui est seulement et uniquement un juge, est-ce que Dieu est un juste juge? Oui. Mais il est plus que ça. Il est aussi votre Père céleste. Il est votre papa. Il est votre ami. Il vous aime et il veut que vous vous approchiez de lui. Mais le problème, et je le sais bien, aussi bien que n'importe qui, que quand on fait des choses qui ne sont pas correctes, quand on s'éloigne de Dieu, notre tendance humaine, ce n'est pas de s'approcher de lui, mais de s'éloigner de lui. On l'a vu en Genèse chapitre 3, n'est-ce pas? Adam et Ève, ils ont péché, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu honte, et ils se sont cachés. L'intimité avec Dieu a été brisée. C'est quoi l'intimité? L'intimité, c'est une atmosphère où on n'a rien à craindre et rien à cacher. Ils étaient tous les deux nus, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas honte. L'intimité, c'est d'être capable, si on est intime avec Dieu, on n'a rien à craindre dans la présence de Dieu. Et on n'a pas honte d'être dans la présence de Dieu. Le problème, c'est quand les choses de cette vie envahissent notre personne ou envahissent notre existence, on peut donner place aux choses qu'on sait qui ne sont pas correctes. Et là, on a honte de s'approcher de lui. Mais la parole de Dieu dit, « Fais pas ça, éloignez-vous pas !» Cachez-vous pas. Essayez pas de tisser les feuilles pour cacher votre honte. Mais courez vers moi et recevez ma grâce. Recevez mon amour dans votre vie. Amen. Approchez-vous de lui avec assurance. Comment est-ce que quelqu'un qui fait des choses qui n'est pas correctes peut-il s'approcher de Dieu avec assurance, sans avoir honte et peur et crainte? Est-ce que vous savez? En demandant pardon à Dieu? Et c'est à travers le sang de Jésus, n'est-ce pas? On s'approche de trône de grâce avec le sang de Jésus, en réclamant le sang, en disant, Seigneur, je te remercie que tu as inauguré pour nous une route nouvelle et qu'aujourd'hui j'ai accès auprès du Père par cette route nouvelle qui a été inaugurée par le sang de Jésus. Amen. Il faut que vous sachiez que vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et si vous péchez, et si vous confessez votre péché, il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute injustice. Donc on peut avec assurance, mon Dieu, avec assurance, on peut s'approcher de son trône de grâce. Et je pense qu'il y a quelque chose d'important là. Le fait que c'est le trône de grâce. Le trône représente quoi? Le trône, c'est une place d'autorité. Le trône, c'est une place où le roi est supposé de régner. Donc, dans le fond, quand vous êtes au bout du rouleau, vous ne savez plus comment faire ou quoi faire, vous vous approchez de son trône de grâce et vous, avec humilité, vous vous soumettez aux seigneuries de Jésus-Christ. Et vous dites, Seigneur, je déclare que tu es mon Seigneur aujourd'hui. Je t'ai peut-être confessé comme Seigneur et Maître il y a quelques années, mais aujourd'hui, ce moment même, je déclare que tu es mon Seigneur, tu es mon Maître, et ma vie est soumise à ton autorité. Et Seigneur, je m'approche avec assurance de ton trône de grâce et je me soumets à toi. Amen. Alléluia. Jacques 4, 8 dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on s'approche de lui et on s'approche de son trône? On doit recevoir sa grâce. Sa grâce est suffisante. Sa grâce, c'est la puissance surabondante de Dieu qui nous rend capables de faire tout ce qu'il nous demande à faire dans la vie. Mais cette grâce a besoin d'être reçue. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? On a besoin d'ouvrir la porte de notre cœur. On a besoin d'inviter la grâce de Dieu. Et ça prend quelque chose. Ça prend de l'humilité. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Donc, si vous allez recevoir la grâce de Dieu, il va falloir que vous laissez le Seigneur faire son œuvre et que vous arrêtez de le faire vous-même. C'est pas toujours évident, vous êtes d'accord? Mais on doit s'approcher de lui avec assurance, on s'approche de son trône et on reçoit sa grâce, on reçoit sa puissance qui s'accomplit dans notre faiblesse. On avoue au Seigneur, Seigneur, je, dans ma propre force, dans ma chair, je suis faible. Je ne suis pas capable de continuer. Le cadran sonne lundi matin, vous êtes fatigué, vous êtes tanné d'aller travailler, vous dites, oh, je ne sais pas, je suis capable de faire une autre semaine, et vous vous approchez de son trône de grâce, et vous recevez sa grâce, sa puissance, qui vous fortifie. Amen. Vous dites, ok, je suis capable, je peux le faire, je peux continuer encore une autre journée, une autre semaine, un autre mois, une autre année, 10 ans de plus si nécessaire, Seigneur, je vais vivre pour toi. Amen. Recevez sa grâce. C'est quoi la troisième chose qu'on peut faire? Obtenez sa miséricorde. Obtenez sa miséricorde. S'il y a une chose qui peut nous empêcher de recevoir la grâce de Dieu, c'est la culpabilité ou le sentiment de la condamnation. C'est le diable qui va montrer son doigt et qui pointer son doigt et qui va vous rappelez de tous les péchés, des problèmes ou des erreurs du passé. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut obtenir sa miséricorde. Tite 3, 5 dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa quoi? Miséricorde. Par le baptême de la régénération ou de la nouvelle naissance, on peut dire, est le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice, mais à cause, selon la Bible dit, sa miséricorde. Est-ce que vous êtes content que Dieu est miséricordieux? Moi, j'en ai besoin. Vous en avez besoin. Le monde entier a besoin de la miséricorde de Dieu. On a besoin de son sang. On a besoin de son pardon. On a besoin de son amour. Dieu est lent à la colère. N'est-ce pas? Il est miséricordieux. Mais il faut obtenir sa miséricorde. Comment est-ce qu'on obtient la miséricorde? De la même manière qu'on obtient n'importe quoi de Dieu, par la foi. Il faut croire. Ce n'est pas une chose qui est basée sur nos sentiments, mais sur la foi en Jésus-Christ. On obtient sa miséricorde. On réclame sa miséricorde. On marche dans sa miséricorde. Amen. Puis finalement, la troisième chose qu'on voit, quatrième chose, pardon, qu'on voit là-dedans, dans ce verset en Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce, et pour être secourus dans nos besoins. Donc, quatrième chose, confiez-vous à son secours. Confiez-vous à son secours. Sachez que Dieu est toujours là pour vous secourir dans vos besoins. Quel est votre besoin aujourd'hui? Vous avez besoin d'être secouru dans vos finances? Vous êtes au bout du rouleau? Il y a plus du mois que paye dans le mois? Il y a des problèmes que vous ne savez pas comment régler? Il y a des choses qui pressent, il y a des choses qui vous menacent dans vos finances. Vous avez besoin dans votre corps physique de la guérison, vous avez besoin de la santé, peut-être dans votre âme, dans vos émotions, vous avez besoin de la guérison, vous avez besoin du réconfort, vous avez besoin de la paix de Dieu. Peu importe ce dont vous avez besoin, le Seigneur est toujours là pour vous secourir dans vos besoins. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Il est là pour nous secourir dans nos besoins. Ça, c'est une bonne nouvelle. On s'approche de son trône de grâce avec assurance. On reçoit sa grâce. On obtient sa miséricorde. Et on se fie à son secours. Il y a deux versets dans les psaumes que je veux lire pour terminer aujourd'hui. Alléluia. Le premier, c'est psaume 28, 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Moi, j'ai remarqué que dans ma vie chrétienne, j'ai besoin d'un bouclier. Et vous? Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'ennemi ne m'aime pas et l'ennemi ne vous aime pas non plus. Passez une semaine avec moi et entendre toutes les choses que j'entends. Les problèmes et les difficultés et les attaques que les gens peuvent avoir, vous allez voir tout de suite, et ça ne prendrait pas longtemps de voir que le diable est méchant et il déteste les chrétiens. Et on a besoin d'un bouclier de la foi. Et avec ce bouclier, on peut faire quoi? On peut éteindre tous les dards enflammés de l'ennemi. Et c'est qui est notre bouclier? C'est lui-même. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Quand je suis au bout du rouleau, je prends mon bouclier, je me laisse infuser de sa force et de sa puissance. En lui, mon cœur se confie et je suis, quoi? Secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. C'est pas toujours évident, mais des fois, on a besoin d'offrir un sacrifice de louange au Seigneur. On doit prendre une décision de chanter. Mercredi soir, il y a deux semaines, on a parlé de David à Ziklag et à toute cette journée horrible qu'il a vécue. Il arrive avec ses amis et toute sa ville est rasée et brûlée et tous ses enfants et toutes les épouses de tout le monde ont été pris captifs. Donc, tout le monde commence à pleurer. Tout le monde a pleuré jusqu'à ceux qui n'avaient plus de la force à pleurer. Mais David a puisé sa force dans l'Éternel, la Bible dit. Il s'est encouragé lui-même. Il en avait besoin aussi parce que si c'est pas suffisant d'avoir tes enfants et ta femme enlevés, ta maison brûlée, toute la ville est détruite, si c'est pas assez, tous ses amis ont parlé de le lapider. C'est de ta faute, monsieur le leader. C'est toi le problème. Donc, on va te lapider. Donc, au lieu de rester dans cet état de confusion, où au lieu de rester dans cet état de défaite, David a puisé ses forces dans l'Éternel. Et moi, j'ai une bonne idée de comment il a fait aussi. Parce qu'on a juste à lire les psaumes que David a écrit la plupart. Et on voit que David, c'était un homme avec un cœur selon Dieu. David, c'était un homme de louange. David, c'était un homme qui louait le Seigneur malgré les problèmes. Tu dois lire juste tous les psaumes qu'il a écrits pendant que Saül chassait et que même son fils voulait le tuer. Donc, vous voyez, on voit que David, il savait puiser ses forces dans l'Éternel et se fier dans le secours de l'Éternel. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Et le dernier verset qu'on veut partager aujourd'hui, psaume 46:1. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui. En quoi? En secours qui ne manque jamais dans la détresse. Merci Seigneur. N'est-ce pas bon de savoir que nous avons un Dieu qui est notre force, un Dieu qui est notre bouclier, un Dieu qui est notre secours et un Dieu qui ne manque jamais, jamais, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, nous sommes sans crainte. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu est là pour nous secourir. Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours sur le trône. Et il est assis pas juste sur le trône du jugement, mais pour nous, ses enfants, il est assis sur le trône de la grâce. Et on peut s'approcher de ce trône avec assurance. On peut recevoir sa grâce, obtenir sa miséricorde et se fier à son secours. Et on peut être dans l'allégresse et louer son nom, maintenant et à jamais. Amen. On va se lever debout, on va remercier le Seigneur ce matin. Parce que il est là, il est bon, et c'est lui qui nous rend fort dans les temps difficiles. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il change notre deuil en allégresse. Il change notre deuil en allégresse. Il nous donne la force. Quand je suis faible, je suis fort. Tout le monde dit, quand je suis faible, je suis fort. Sa grâce me suffit. Sa grâce s'accomplit dans la faiblesse. Donc aujourd'hui, on va le dire, aujourd'hui, je m'approche de lui. Avec assurance, je m'approche du trône de la grâce. Je reçois sa grâce. J'obtiens sa miséricorde. Je me fie à son secours. Au nom de Jésus. Alléluia. Et juste avant de partir, si vous êtes ici ce matin, et vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus, je vous donne l'occasion d'aujourd'hui. Moi, j'ai fait une promesse à cette église et au Seigneur que jusqu'au jour qu'il me dit autrement, à tous les dimanches matin, je vais faire un appel. Je vais vous donner une occasion de donner votre vie au Seigneur Jésus. Donc, je vous demande de rester tranquille pour une minute de plus. Et si vous êtes là ce matin, je vous pose une question. Est-ce que votre cœur est en règle avec votre Dieu? Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Est-ce que vous savez que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle? Savez-vous que la vie éternelle, c'est un don gratuit que vous ne pouvez pas mériter ou gagner? Mais Jésus vous l'offre. Savez-vous que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé? Jésus a dit ceci. Si tu me confesses devant les hommes, écoutez ceci. Jésus parle et il dit, si tu, et moi, dans mon cœur, c'est comme je ressens que le Seigneur est en train de parler à quelques-uns ce matin, il dit, je parle à toi. Si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est au ciel. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Donc, n'ayez pas honte de Jésus ce matin. Mais je vais donner une occasion à chaque année, c'est de s'examiner soi-même, sonder son cœur. Pose-toi la question. Si tu quittes la bâtisse aujourd'hui et ton cœur arrête de battre et ton esprit quitte ton corps, où est-ce que tu vas aller? Est-ce que tu sais sans aucune doute que tu vas aller au ciel, passer l'éternité avec Jésus? Parce que sinon, il y a juste une autre option. Tu dis, moi, je ne sais pas, j'espère, parce que je suis une bonne personne. La Bible dit que tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucune personne qui est assez bon pour aller au ciel sur ses mérites. Tu dis, oh, mais je vais à l'église, je m'assois dans une église. Écoute, va t'asseoir chez Tim Hortons, tu ne vas pas devenir un Tim Bitt non plus. Tu dis, mais je lis ma Bible, je prie. Il y a des personnes de toutes sortes de religions au monde qui ne croient même pas en Jésus, qui prient ou qui lit un livre. C'est pas ça qui peut sauver votre âme. La seule chose qui peut sauver votre âme, c'est le sacrifice de Jésus que tu dois recevoir par la foi en croyant en lui. Donc aujourd'hui, je vous invite. Je vais compter à trois, je vais taper ma main. Dès que je tape ma main, si vous êtes là et vous avez besoin d'accepter Jésus dans votre cœur comme votre sauveur, votre Seigneur, je vous invite juste à lever la main, on va prier pour vous. Qui a besoin de donner sa vie à Jésus aujourd'hui? Un, deux, trois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Juste lever la main. N'ayez pas peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Moi, je crois qu'il y a sûrement quelques personnes. Mais sinon, on va prier, on va remercier le Seigneur qu'avant aujourd'hui, avant que cette journée prenne fin aujourd'hui, que tu vas prendre cette décision qui est la plus importante de ta vie. Est-ce que quelqu'un d'autre? Juste lever la main. Vite. Sinon, on va prier. Merci, Seigneur. Seigneur, je prie pour chaque homme et chaque femme ici présente. Pour tous ceux qui ont ressenti qu'ils sont au bout du rouleau, Seigneur, merci que aujourd'hui, ils ont appris comment s'approcher de ton trône de grâce pour recevoir ta grâce, obtenir ta miséricorde et être secourus dans leurs besoins. Seigneur, je te remercie que nous ne sommes pas les auditeurs oublieux, mais nous sommes ceux et celles qui mettent en pratique la parole de Dieu. Donc, merci, Seigneur, au nom précieux de Jésus. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime.